Radio Campus, il est 19h.
Atacafa et Radio Campus Lille vous invitent à la Louche d'Or, 19e édition. Venez essayer de remporter le prix de la Louche d'Or en concoctant une soupe de folie. Venez déguster sans modération les dizaines de soupes faites par les participants. Venez assister aux nombreux concerts, spectacles, animations et ateliers pour petits et grands autour de la Maison Folie de Oisem. Venez vous régaler dans les nombreux food trucks. Et aussi, venez voir les animateurs de Radio Campus Lille qui assureront un direct à partir de 13h pour vous fournir des échantillons sonores de cette fête unique et qui seront à l'honneur pour les 50 ans de la radio. Comme chaque année, la Louche d'Or 2019, c'est le 1er mai, de midi à 22h, c'est à Oisem et c'est gratuit.
On veut bien être gentil, mais pas con.
La première chose qui te saute aux yeux, les briques, c'est les briques rouges.
Jouez pas au con avec
nous. On est trop gentil.
Le rouge est la couleur du sang, le rouge est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence.
On est gentil, hein? On est toujours gentil.
C'est le capitalisme, n'est pas
arrête-toi.
Mais le rouge est aussi la couleur du vin.
Voilà.
Vin qui dit vin, qui porte vin. Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico. Tu vois, c'est des histoires de fric.
Je vote pas pour les capitalistes, hein.
Te
bon, je suis ouvrier.
On est trop gentil.
Sur Radio Campus 106,6, on passe au rouge parce que le sujet de ce soir est de nature à prolonger le plaisir quand on y pense. On passe au rouge animé par Laurent. Salut Laurent.
Salut.
Joseph, coucou.
Salut.
Et Jean-Jacques, bien sûr.
Hello.
Une émission réalisée par Seb, une émission spéciale justice fiscale avec Éric Bocquet, sénateur du Nord. Monsieur le sénateur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur de nombreux projets de loi qui combattent l'injustice fiscale. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre, Sans domicile fisc, que vous avez écrit avec votre frère Alain. À quelle maison d'édition, s'il vous plaît ?
Au Cherche Midi.
La fiscalité, c'est votre cheval de bataille. Et dans ce contexte, si particulier, ce mouvement social armé de revendications qui sont souvent fiscales, vous êtes celui avec qui on avait envie de discuter. Dans cette émission, vous retrouverez vos rubriques « Parts de marché » qui a eu un trop perçu de soleil sur le marché de collier. Rien ne nous sera épargné ce soir. On écoutera des blogs vidéo pas avares quand on parle de gros sous avec le Vlalvlog de Jean-Jacques qui n'est pas un arriéré. On attendra des bouts d'une rencontre devant le Sénat avec vous, Éric Bocquet, et des gilets jaunes. Mais on a fait des prélèvements dans une de vos vidéos. Et nous arriverons à échéance avec Joe et son Working Class Hero consacré à Louise Michel. Ça s'impose. Mais avant ça, on discute un petit peu avec vous, Éric Bocquet.
Alors Éric Bocquet, mais quelle mouche vous a piqué ? Pourquoi vous attaquez à un sujet tel que la fiscalité ? Un sujet aussi tue l'amour. Quels sont les enjeux de la fiscalité ?
Les enjeux de la fiscalité, ils sont fondamentaux. Il n'y a pas de société sans impôts. S'il n'y a pas d'impôts, on vit dans la jungle. Et j'ai toujours en tête cette phrase de Henry Morgenthau, que personne ne connaît, mais qui était le secrétaire d'État au Trésor de Roosevelt aux États-Unis dans les années 30, au plus fort de la crise. Et il a eu cette phrase magnifique et simple de dire « L'impôt, c'est le prix à payer pour vivre dans un monde civilisé ». Voilà, les gens ne sont pas contre l'impôt. Dès lors que l'impôt permet d'avoir accès aux services de santé, à l'éducation, au logement, normalement ça devrait être ça, sa fonction, de réparer les inégalités ou tenter au moins de les réduire. Et ce que les gens ne supportent pas, c'est l'inégalité, c'est l'injustice fiscale. C'est ce qui est en train de se lire depuis maintenant 4 mois, 5 mois, même depuis novembre dernier, à travers les gilets jaunes, à leur façon, avec leur façon d'agir, mais qui posent les vraies questions et les bonnes questions. Donc c'est un sujet fondamental. Encore une fois, pas d'impôts, pas de société.
D'accord, mais personnellement, ça vous a pris à quel âge ?
Eh bien, tout à fait par hasard. J'ai été élu sénateur en septembre 2011, et 3 mois plus tard, je me retrouvais rapporteur d'une commission d'enquête au Sénat, en janvier 2012. Je ne savais pas ce que c'était qu'une commission d'enquête. Moi, dans ma vie, j'étais enseignant jusqu'en 2010. J'enseignais l'anglais. Cela dit, l'anglais me sert pas mal pour comprendre la finance anglo-saxonne, internationale. C'est utile. Mais je me suis retrouvé rapporteur d'une commission d'enquête en 2012, puis 2013. Deux commissions d'enquête, au total un an de travail. Et ça a radicalement changé ma vision du monde. J'ai toujours été communiste, j'ai toujours été antilibéral. Mais là, je suis rentré au cœur de la machine. Et mon indignation qui est née le premier jour est intacte à l'heure où je vous parle. Voilà, c'est ce qui me motive. C'est cette mouche-là qui m'a piqué. Obama, on raconte qu'Obama a fini de rembourser son prêt étudiant après être entré à la Maison Blanche. Donc c'est pour vous, c'est ça l'impôt. Moi, je paye l'impôt et je suis content de le faire. Ça fait, on fait partie de la société et ça permet à tous, à tout moment, d'avoir accès à ces services publics indispensables.
Donc une société sans impôt, c'est une société qui peut être aussi avec un moindre pouvoir d'achat. Il faut le garder en tête.
Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est aussi une réponse à cela. La France a mieux traversé, ou en tout cas moins mal que les autres pays d'Europe, la crise née après le krach financier de 2008. On s'en est un peu moins mal sorti que les autres parce qu'il y a de la redistribution, parce qu'on a un système fiscal en France qui fonctionne. On a une administration fiscale qui fait bien son boulot, mais évidemment, il y a encore trop de gens qui échappent à l'impôt et c'est un peu l'objet de la discussion de ce soir.
Éric Bocquet, sénateur du Nord, le grand spécialiste de l'injustice fiscale sur Radio Campus. On vous retrouve juste après ce part de marché. Vous ne connaissez peut-être pas ce son que l'on propose là aux auditeurs de Radio Campus pour la 14e fois, mais on va toujours au même endroit. C'est sur le marché de colliers à Fives et nous posons des questions aux gens et leurs réponses sont souvent surprenantes. Et cette fois-ci, bien entendu, on leur a parlé d'impôts. En ce dimanche paradisiaque sur le marché fiscal de Collier à l'île Fives, on vous taxe quelques réponses sur la douloureuse question des impôts. Une première déclaration. À quoi servent-ils ?
Ça sert à aider la ville, à investir dans les associations, enfin, à faire les choses, les travaux, des choses comme ça, quoi.
Bah, normalement, à entretenir les... Enfin, comment dire ça ? Bah, tout ce qui est public, quoi, en fait. Les services publics, améliorer les services publics. Quoi, que ce soit l'enseignement, la recherche.
Nous, pour nous, de toute façon, on n'en paye pas. Et heureusement, parce qu'avec ce qu'ils nous donnent...
Ça sert à payer le gouvernement.
Mais ils en font quoi de cet argent ?
Ils mettent déjà le premier truc dans leur poche, dans leur porte-monnaie, dans leur portefeuille. Et après, ils voient.
Normalement, améliorer notre quotidien, enfin pour les plus déshérités, tout ça.
Cet argent, c'est pas l'État.
C'est tout. Mais ils en font quoi, l'État ?
Je sais pas.
Normalement, c'est censé gérer et un peu financer tout ce qui est service public. C'est un investissement personnel qui doit avoir des retombées collectives. Normalement, on paye des impôts pour avoir des hôpitaux de qualité, des métros qui marchent bien, des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, je pense que tout ne va pas dans ce sens-là.
Ouais, ça va où alors, si ça va pas là ?
Bah, je pense que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une connivence entre les politiciens et des gros groupes financiers. Et c'est vraiment le cancer de la gestion politique française. C'est qu'il y a un rapprochement et un rapprochement malsain entre des grands financiers, des gens qui type Bayer, Monsanto, Eiffage, Bouygues et j'en passe, et des politiciens. Et donc il y a certaines lois qui sont validées en la faveur d'une élite, ce qui fait que l'argent n'est pas redistribué comme il le devrait.
C'est marrant, hein. Quand on vous demande à quoi sert l'impôt, vous commencez presque toujours votre réponse par « normalement ». La redistribution serait-elle injuste ? Mais, et vous d'abord ? Vous êtes vraiment nickel avec le trésor ? Vous êtes sûr que vous mettez pas un peu de maille à Dubaï ?
Oh non, pas du tout. Je suis retraitée, je peux pas me permettre. Je voudrais bien, mais c'est pas le cas. J'ai jamais eu beaucoup d'argent dans la vie, donc je peux pas vous dire ce que je ferais si vraiment ça me tombait du ciel.
J'ai pas du tout les moyens de mettre mon argent, j'en ai pas assez pour mettre dans un paradis fiscal.
Et si vous étiez très riche, est-ce que vous feriez ça ? Vous hésitez ?
Bah oui, je m'informerai, oui.
Du coup, ça serait autant d'argent qui n'irait pas pour les écoles, les hôpitaux, les routes ?
Oui, c'est vrai. C'est contradictoire ce que je dis. Enfin, oui.
Est-ce que vous mettez votre argent dans un paradis fiscal, monsieur ?
Désolé, je ne connais pas ça.
Bah non. Pas du tout, j'ai pas les moyens.
Si vous étiez très riche, vous feriez ça ?
Non, je pense pas. Parce que je suis française et je ne paye pas impôts en France.
Monsieur, est-ce que vous mettez votre argent dans un paradis fiscal ?
Chez Coacho.
Bah, vous savez, là, quand on met son argent aux îles Caïmans pour pas payer d'impôts, par exemple.
Ah non ?
Non, non.
Vous faites pas ça, vous ?
Mais on n'a pas assez de sous pour aller les placer.
Je gagne pas assez, justement, pour aller les placer. Je gagne pas assez.
Il achète un camping-car et on s'en va.
Voilà.
Voilà. J'aimerais bien, mais je gagne pas assez. Sinon, je serais comme les autres. Hein. Je pense que j'éviterais de payer autant d'impôts, ouais, peut-être.
c'est possible. Parce que j'ai tellement galéré que voilà quoi.
Est-ce que vous, vous mettez votre argent dans un paradis fiscal?
Oui, bien sûr, tout ce que je n'ai pas, je mets.
Tout ce que vous n'avez pas?
Voilà. Si j'étais riche, non, je pense pas, non. Mais c'est, voilà, c'est une question de mentalité. Après, je suis pas riche, donc peut-être que ça change les gens quand ils vont dire riche.
On peut pas dire. On ne peut pas dire, point d'interrogation, quand on a autre chose, on peut pas dire, on peut pas dire.
Là, je vous voyais, là, vous étiez en train de fouiller dans la poubelle, madame, là?
Ouais.
Pourquoi? Qu'est-ce que vous cherchiez?
Eh ben, ce qu'on peut récupérer, ce qu'on peut récupérer. Regardez, je récupère le vieux pain pour donner à une marchande, comme ça, elle me donne un tout petit peu de légumes. Disons que, on vivote.
Je trouve pas ça une idée valable, quoi. Du coup, c'est de l'argent qu'on n'utilise pas, qu'on n'a pas besoin. Donc, à quoi ça sert? À quoi ça sert de valoriser de l'argent qu'on n'a pas besoin, quoi. Ça paraît pas malin, quoi.
Bon sang, mais vous le feriez aussi? Ça change les gens quand on devient riche. En fouillant la poubelle, on rêve de trésors. Mais il y a un truc qui va pas avec les prélèvements. Un truc pas juste.
J'aime mieux pas en parler parce que ça me dégoûte en ce moment. Il y a trop d'abus. C'est vraiment abusé. On a trop d'impôts et puis il y a trop de misère. Quand vous voyez pour Notre-Dame de Paris, là, qu'il y a des milliards qui tombent, et pour les SDF qui meurent de faim, ça me révolte.
Qu'est-ce qu'il faudrait changer?
Ben, taxer un peu plus les riches, hein, plutôt de mettre de la CSG aux retraités. Depuis 2012, je me retrouve avec plus de 30 euros en moins dans ma retraite.
On n'est jamais satisfait. C'est normal. Hein. Je pense que plus on est riche, plus on devrait pouvoir donner. Mais à la fois, ça se discute. Les gens qui ont fait 20 ans d'études, c'est logique qu'ils gagnent plus qu'une personne qui n'a pas fait d'études. Après, voilà, il y a des niveaux où c'est démesuré.
Est-ce que vous trouvez que la répartition de l'impôt, elle est juste? Enfin, que c'est les bonnes personnes?
Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Ce président-là, il est pour les gens qui ont beaucoup d'argent, puis c'est tout. Moi, je le vois au quotidien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des gilets jaunes. Hein. Les gens, ils n'en peuvent plus. Hein. Il y a beaucoup de choses pour les plus riches. Regardez, les prêts immobiliers. Les prêts immobiliers, encore maintenant, les taux les plus intéressants, c'est pour ceux qui gagnent bien leur vie. Bon, je ne suis pas là pour faire la révolution, mais je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas normales. Donc non, c'est pas un gouvernement pour les gens qui n'ont pas beaucoup de sous. C'est un gouvernement pour les gens qui gagnent leur vie.
Non. Ça ne durera pas longtemps, monsieur.
Non, je suis à la retraite, j'ai 71 ans, je suis obligé de travailler parce que ma retraite est trop petite. Alors, je travaille, je fais bien du boulot. Ben, j'ai une petite retraite, donc je suis obligé de travailler à 71 ans. Voilà.
Qu'est-ce que vous faites comme travail complémentaire?
La restauration.
Je pense que la plus grosse injustice dans ce pays, c'est l'injustice fiscale. D'ailleurs, je pense que le problème de classe, c'est-à-dire les dominants et dominés, et le rapport qu'il y a entre les plusieurs sous, je ne parle pas des classes moyennes, des bourgeois, je parle des gros industriels, des finances et de ceux qui travaillent. Je pense que le rapport de domination est le plus gros problème aujourd'hui en France. Je pense que voilà, il y a une disproportionnalité entre les facilités qu'ont certains grands groupes et le fait que beaucoup de gens en bas ou dans la classe moyenne continuent de lutter, quoi.
Ça va passer à la radio?
Ouais.
Non, les riches devraient payer plus d'impôts.
Pourquoi?
Parce qu'ils ont les moyens, simplement.
La fiscalité est une arme de domination. Alors que ce que vous voulez, c'est de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Un adage résumant parfois les principes d'une société communiste.
On passe au rouge, retrouvez-nous pendant 2 mois sur campuslille.com.
On est toujours avec Éric Bocquet, sénateur du Nord, qui est membre de la commission fiscale au Sénat. Et donc, on l'interview évidemment parce que ça nous intéresse de parler d'injustice fiscale ce soir.
Alors, la plus grosse injustice dans ce pays, c'est l'injustice fiscale, justement, entend-on dans ce part de marché. La fiscalité, ça va de la TVA à l'impôt sur le revenu en passant par la taxe foncière. Y a-t-il des prélèvements plus justes que d'autres, Éric Bocquet ?
Il y en a un qui est particulièrement injuste, c'est la TVA. Et la TVA, c'est la moitié des ressources de l'État. Et la TVA, tout le monde la paye. Que vous soyez allocataire du RSA ou milliardaire, vous achetez à 40 bars, vous payez la TVA. Donc ça, c'est l'impôt le plus injuste, et c'est celui qui fournit le plus de recettes à l'État. Après, l'autre injustice, c'est l'évolution qu'il y a eu ces dernières années entre l'impôt sur le revenu, payé par les salariés, et l'impôt société, payé par le monde économique. Et les courbes se sont croisées. Là, j'ai les chiffres sous les yeux pour 2019. Sur les 290 milliards de recettes, hein, je ne vais pas mettre trop de chiffres, mais quelques-uns quand même pour donner des repères. 70 milliards d'impôts sur le revenu, 31 milliards d'impôts société. Et quand je remonte à 2012, le chiffre était de 59 milliards pour l'impôt sur le revenu et 40 pour l'impôt sur les sociétés. Donc on voit bien que les courbes sont en train de se croiser. On fait davantage payer les salariés, les petits revenus, et de moins en moins les sociétés et les entreprises, notamment les grands groupes, qui ont en plus... qui bénéficient en plus d'exonérations, d'allègements, de crédits d'impôt, etc., etc.
À l'inverse, l'impôt sur le revenu, qui est un impôt progressif, oui. Donc qui fait en sorte que celui qui a le moins de moyens paye moins d'impôts. Il y a combien de tranches actuellement sur l'impôt sur le revenu ?
Aujourd'hui, il y a 5 tranches. La tranche maximale est à 45%. En 86, je crois, il y avait 14 tranches d'impôts. Donc l'impôt est moins progressif qu'il ne le fut, il y a donc 30 ans. Donc l'une des réponses aujourd'hui serait de réintroduire une plus grande progressivité dans l'impôt. C'est un choix politique de faire payer les hauts revenus, les très grands groupes, et tout ça a reculé parce que voilà, le monde économique, les grands groupes ont fait pression depuis des années, ont soutenu ces gouvernements et les ont incités, les ont amenés à réduire l'impôt société au nom de la compétitivité, etc., etc., pour en arriver là où nous en sommes aujourd'hui.
La question de la fiscalité, c'est aussi la question des exonérations fiscales. On a tous entendu parler du CICE. Il y a aussi un tas d'autres niches fiscales. Celle qui est dans l'air du temps, c'est la fiscalité avantageuse qu'ont utilisé les grandes fortunes dans le cadre de leurs dons pour Notre-Dame de Paris. Une menue exonération de 480 millions d'euros. Il y a un problème à ça ?
Bon, d'abord, ça montre que, on le savait, mais c'est l'illustration à nouveau qu'il y a de l'argent dans ce pays. Les rapports successifs le démontrent. Juste un chiffre, entre 2009 et 2016, sur 100 euros de bénéfices réalisés par les groupes du CAC 40, 67 euros sont allés aux dividendes distribués aux actionnaires, 27 à l'investissement et 5 euros aux salariés sous forme de primes. Voilà, là, il y a un facteur d'inégalité évident qui est en train de s'amplifier d'année en année. On ne peut pas s'étonner que d'un côté, la richesse explose et de l'autre, la pauvreté dans les mêmes proportions. On est à 9 millions de gens dans ce pays vivant sous le seuil de pauvreté. J'entendais en début de semaine, on parlait du petit déjeuner offert à l'école aux enfants qui n'ont pas de petit déjeuner chez eux pour des raisons financières. 3 millions d'enfants sont concernés dans ce pays. 3 millions d'enfants. Jusque quand ça va durer, cette affaire-là ? Alors qu'il y a un argent fou qui vomit partout, l'exemple de Notre-Dame, très bien, on ne peut qu'applaudir. Des gens sont capables de sortir 100 millions, 200 millions comme ça, du jour au lendemain. Mais ça veut dire qu'il y a de l'argent, et ça veut dire qu'on aurait dû maintenir l'ISF pour continuer ces gens-là à faire payer leur juste part dans le budget de la République.
Mais est-ce que sur Notre-Dame, ce qu'on entend parfois est vrai, c'est-à-dire que les grands capitalistes, les pinots là, de ce pays, donnent des centaines de millions d'euros, mais en réalité c'est nous, les contribuables, qui en payons 90%, c'est vrai ça ?
Oui, c'est 60% en fait de défiscalisation. Il y avait une proposition qui avait été faite pour amener ce chiffre à 90% concernant le patrimoine. C'est tellement indécent que même Pinault a renoncé lui-même à bénéficier de cette défiscalisation, pour vous dire à quel point c'est indécent. Quoi. Dans le débat du moment où les gens dénoncent à juste titre l'injustice fiscale, ça devient de la provocation quasiment.
Oui, Bernard Arnault ne s'est pas exprimé sur le sujet.
Je ne l'ai pas entendu, non.
Donc ça veut dire qu'en réalité, quelqu'un de très très riche décide du budget de l'État, décide de ce que l'État va dépenser. S'il donne telle quantité d'argent et que 60% lui est remboursé, ça nous oblige, nous, donc, à payer pour ça, à le payer, lui.
Oui, absolument. D'ailleurs, la suppression de l'ISF a eu comme conséquence imprévue, nous dit-on, de voir les dons aux associations diminuer de manière sensible. Donc les dons aux associations, ça n'était pas que de la générosité, de la philanthropie, c'était aussi un moyen de défiscaliser sa fortune.
Et la CSG alors, parce que sur les ronds-points, on entend parler beaucoup de cet impôt-là. Vous nous avez dit tout à l'heure que on comprend que pour vous, un impôt juste, une fiscalité juste sur le revenu, c'est une fiscalité progressive, donc il faut un grand nombre de tranches. Et pour la CSG, ça se passe comment ?
La CSG, elle est progressive aussi. Enfin, elle est fixée par un pourcentage. Mais c'est sûr que c'est pas la CSG en soi qui pose un problème, c'est la faiblesse des revenus qu'elle impacte, qui est la difficulté véritable de ces gens. Et d'augmenter la CSG de 1,7%, comme ça a été décidé l'an dernier pour les retraités, à des retraités qui sont à des niveaux... Enfin, on a découvert tout à coup qu'il y avait des retraités pauvres et en difficulté dans ce pays. Pour nous, ce n'est pas une découverte. Les militants, etc., le savent et le disent et le dénoncent depuis des années. Mais s'attaquer à des retraites à 700, 800, 900 euros, inférieurs au seuil de pauvreté, et dans le même temps faire un cadeau de 5 milliards ou 4 milliards d'euros aux gens assujettis à l'ISF, qui sont au nombre de 350 000 foyers en France, il y a là évidemment un signal énorme de provocation qui a été envoyé aux salariés de ce pays et aux retraités.
C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en maçon que l'on devient maçon, en polissant qu'on devient polisson, mais pour gagner des sous, c'est en bûchant que l'on devient bûcheron, en relatant qu'on devient relation, c'est à cent ans qu'on devient moribond, mais pour gagner des sous, mais pour gagner des sous. Les gens disent toujours que l'on n'a rien sans rien.
Ça, il faut bien dire, on n'a rien sans rien.
Qu'il faut beaucoup semer pour un peu récolter. Moi, j'ai rien dans les poches, moi, j'ai rien dans les mains.
Ah, si, moi, j'ai dans les mains.
Mais comment voulez-vous que je gagne des sous? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en cornant qu'on devient cornichon. En se perchant qu'on devient percheron. Mais pour gagner des sous, mais pour gagner des sous. C'est en bûchant qu'on devient bûcheron. C'est en rêvant qu'on devient réveillon. En se mouchant que l'on devient moucheron. Mais pour gagner des sous, mais pour gagner des sous. Prodigues en paroles, tous les gens m'ont dit qu'il faut le pratiquer.
En effet, il faut savoir son métier.
Pour savoir son métier. Moi j'ai pas fait d'école, moi je n'ai rien appris. Et comment voulez-vous que je gagne des sous?
Vol.
C'est en
forgeant
qu'on devient
forgeron.
C'est en
collant
qu'on devient
collation. Ah, vous portez des collants.
Pour gagner des sous, mais pour gagner des sous, c'est en bûchant qu'on devient bûcheron, c'est en aidant qu'on devient aidant,
très joli,
en guérissant qu'on devient guéridon,
c'est pas mieux.
Mais pour gagner des sous, mais pour gagner des sous, mais pour gagner des sous, bon sang, comment fait-on ?
Pierre Vassiliu, pour gagner des sous.
Vous êtes à l'écoute de Radio Campus sur le 106,6.
Il est temps d'écouter le Vlal Vlog de Jean-Jacques consacré à l'injustice fiscale. Qu'est-ce qu'on va entendre dans ces vidéologues, Jean-Jacques ?
Alors, dans les vlogs, il y a pas mal de choses justement sur la justice fiscale et surtout sur l'injustice fiscale. J'ai retenu deux choses. Alors, Osons causer d'abord, qu'on connaît, qui est toujours très intéressant. Il y a pas mal de choses justement sur la question de la fiscalité. Un format vidéo que je connaissais pas qui s'appelle Data Gueule, qui est de la production Première Ligne, le même producteur de Cash Investigation, hein, donc assez connu, mais un petit format web que je vous recommande chaudement d'écouter.
Quel est le point commun entre la Révolution américaine de 1773, la chute de la monarchie française et la destitution de l'empereur Napoléon Bonaparte ? L'impôt. Pas un siècle ne se passe sans révolte fiscale. L'ISF, le fameux impôt de solidarité sur la fortune. Mais cette contribution va faire fuir les pauvres riches. Vraiment ? Postons-nous aux frontières. En 2013, par exemple, l'administration fiscale enregistrait le départ de 713 personnes imposables à l'ISF, soit 0,3% du total. Et encore, sans connaître leur réelle motivation. Selon la banque Crédit Suisse, la France serait même le deuxième pays d'accueil des plus fortunés après les États-Unis, avec plus de 2 millions de millionnaires en dollars. Adieu, mythe de l'exode fiscal. C'est pourtant sur la base de cet argument qu'Emmanuel Macron a décidé en 2017 de remplacer ce prélèvement par l'impôt sur la fortune immobilière. Conséquence immédiate, une chute de 340 000 à 120 000 foyers fiscaux concernés et 3,2 milliards d'euros en moins dans les caisses de l'État. Bien joué. Mais le trésor public n'est pas le seul lésé. En ouvrant droit à des déductions pour les dons aux organisations caritatives, l'ISF transformait la fortune en générosité. Dès sa réforme en 2018, les fonds collectés par les ONG et fondations caritatives auprès des fortunés ont chuté de 54%. Classe. Ouais, mais un impôt juste, c'est un impôt que tout le monde paye, comme la TVA. Contrairement à l'ISF, la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas réservée à une catégorie de la population, mais est appliquée sur des biens et services. De 2,1% sur la presse et les médicaments, à 20% pour le taux normal. Une petite ligne sur le ticket qui pèse lourd dans les caisses de l'État. 154,6 milliards d'euros, soit 54% des recettes fiscales. Jackpot ! Sauf qu'il ne frappe pas tout le monde aussi fort au portefeuille. En consacrant la majeure partie de leurs revenus à la consommation, les ménages les plus pauvres payent beaucoup plus de TVA que les riches, une fois rapportés à leurs moyens. 12,7% du revenu disponible des 10% des foyers les plus pauvres sont dépensés dans cet impôt indirect, contre 4,7% de celui des 10% les plus fortunés. Le panier de la ménagère ne pèse pas le même poids pour tout le monde.
Alors l'évasion fiscale, c'est quand quelqu'un gagne de l'argent dans un pays, mais le planque à l'étranger pour éviter de payer les impôts qu'il doit. Alors c'est une pratique qui est le fait que des très très riches, parce que si t'as pas beaucoup d'argent, ça vaut pas le coup de faire tout le micmac. Alors il y a un rapport parlementaire de 2013 qui estime que, en gros, chaque année, l'État français perd 60 milliards d'euros de recettes fiscales parce qu'elles sont planquées à l'étranger. Alors 60 milliards d'euros, ça fait un peu abstrait, mais ça correspond à l'impôt sur le revenu au budget de l'éducation nationale. Et une autre manière de voir ça, c'est de se dire que soit ces 60 milliards d'euros qui sont planqués à l'étranger, c'est à d'autres gens de les payer. Donc il y a d'autres gens qui payent 60 milliards d'euros d'impôts à la place de ceux qui les planquent. 60 milliards à payer en plus par d'autres, c'est encore un peu abstrait. Donc pour mieux se représenter ça et le rendre concret, on s'est demandé combien ça faisait d'impôts supplémentaires par personne. Alors il y a 60 milliards d'euros qui manquent par an. Si on les divise par les 36,7 millions de contribuables, ça fait 1635 euros par an. Puis, si on veut le mettre par mois, il faut le diviser par 12. Donc ça fait 136,24 euros par mois par contribuable. Alors cette évasion fiscale, c'est quoi ? C'est que chacun paye 136,24 euros d'impôts en plus tous les mois. C'est énorme, hein ? Parce que pendant ce temps, il y a une autre fraude dont on parle beaucoup. C'est celle des profiteurs, des assistés, de ceux qui sont dans leur canapé tranquille. Ça, on en parle tout le temps. Alors si on prend la fraude au RSA, là, c'est le branleur dans son canapé qui touche la thune sans rien faire. Et qui n'a pas droit. Cette fraude, c'est maximum 100 millions d'euros. Donc avec le même calcul, ça nous donne 0,23. Ça veut dire 23 centimes d'euros par mois. Wouhou ! Donc ça, si on compare aux 136,24, ça nous fait que ce qu'il y a après la virgule. Donc c'est pas grand-chose en comparaison. Bon, mais si on compte large les fraudes liées à l'assistanat, c'est-à-dire maladie, retraite et allocs familiales, il y a un rapport de la Cour des comptes de 2010 qui évalue tout ça à 3 milliards d'euros par an. Alors avec le même calcul, qu'est-ce que ça fait 3 milliards d'euros par an ? Ça fait 6,81 euros. Bon, alors récapitulons pour être très clair. D'un côté, on a l'estimation max de la fraude sociale. Ça nous coûte 6,81 euros par mois. Et de l'autre, on a une estimation très tranquille de l'évasion fiscale qui nous coûte 136,24 euros. Donc si vous voulez être au clair, vous voyez ce qui vous coûte le plus.
Radio Campus Lille, disponible en DAB+.
On passe au rouge avec Éric Bocquet, le sénateur du Nord, pour parler d'évasion fiscale.
Et oui, on a parlé de la partie émergée de l'iceberg. Maintenant, on va passer dans la partie immergée. Tout d'abord, on entend parler de milliards. L'évasion fiscale, ça correspond à quoi ? C'est quoi un milliard d'euros ? Tout le monde ne se représente pas forcément.
Non, c'est pas l'échelle de valeur du commun des mortels. Dans la vie d'une personne humaine, le prix d'une maison, 150, 200 000, 100 000 euros, c'est ça l'échelle.
Ouais.
Mais quand on arrive à des milliards, quand on arrive à des terra-milliards, à des pico-milliards, enfin des chiffres complètement délirants...
Je suis perdu là.
Le PIB du monde, c'est 75 000 milliards de dollars. Hein, la France, c'est 2100, la richesse produite par la France, et l'ensemble de l'humanité produit 75 000 milliards de dollars de richesse chaque année. Et l'évasion fiscale, alors on est forcément dans une estimation à l'échelle du monde, comprise entre 21 000 et 32 000 milliards de dollars. Vous voyez un peu l'échelle ? Voilà. Et en France, on parle d'une fourchette comprise entre 60 et 80. Les syndicats annoncent un chiffre de 100 milliards par extrapolation. Il y a un rapport récent qui est sorti au Parlement européen, une étude qui a été commandée par le groupe PS au Parlement européen, qui chiffrait, c'était en janvier, l'évasion fiscale pour la France à 117 milliards par an. Donc on est à une échelle, c'est un tiers du budget global de notre pays.
Qu'est-ce qu'on pourrait se payer avec cet argent ?
Ben déjà, on pourrait se débarrasser de cette dette qui est une construction. On aura sans doute l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans le débat. Avec ça, mais on peut construire des logements, on peut construire des hôpitaux, on peut réduire le nombre d'élèves par classe, on peut combattre l'injustice, éradiquer définitivement la pauvreté.
On peut faire tout ça en même temps avec cet argent.
Mais c'est évident. C'est évident. Quand on voit les chiffres des budgets, là, le budget de l'éducation nationale, c'est 50 milliards d'euros. Vous voyez ? Donc, rapporté à l'échelle de l'évasion fiscale, ça permettrait de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
Et alors, mais pourquoi l'État ne va-t-il pas chercher cet argent ?
Il y a une accélération de la financiarisation de l'économie. Dans ce monde, tout devient marchandise, y compris l'humain, la santé, la vie, la personne âgée, l'enfant devient une marchandise. Ce système n'a aucune limite, il est absolument cynique. Et malheureusement, on a des gouvernements qui sont au service de ce système-là, élus par eux, soutenus par eux, financés par eux. Et voilà, donc on est face à cette réalité aujourd'hui. Tous les gouvernements, la main sur le cœur, disent « c'est terminé ». J'en ai même connu un en 2009 qui a dit « les paradis fiscaux, c'est fini ». Et depuis, on a eu un scandale par an.
Nicolas, non ?
Oui, c'est ça. M. Sarkozy, à son temps, il avait eu un ton très péremptoire pour décréter la fin des paradis fiscaux, mais c'est une mascarade sans nom, quoi. Toutes les décisions prises depuis nourrissent et favorisent l'évasion fiscale. Il n'y a pas un paradis fiscal qui figure sur la liste européenne des paradis fiscaux. Il n'y a pas un État membre de l'Union européenne qui est considéré par l'Union européenne comme un paradis fiscal. Qu'est-ce qu'on fait du Luxembourg ? Qu'est-ce qu'on fait des Pays-Bas avec ses holdings ? Qu'est-ce qu'on fait de l'Irlande avec son impôt société à 12,5% ? Voilà. Tant qu'on ne sera pas d'accord avec une volonté politique unanime de défendre l'intérêt général, eh ben, tout ça va continuer à se développer. Il ne faut pas se mentir.
Éric Bocquet, on aimerait savoir comment ça fonctionne, la fraude fiscale.
Oui, on est allé à Jersey, on est allé en Suisse. On est allé en Suisse. L'accueil n'a pas été des plus chaleureux. Ça a été même très compliqué. On a eu des articles dans la presse absolument incendiaires. Je me souviens d'un député libéral suisse dont je n'oublierai jamais le nom, M. Fatih Derder, qui avait écrit dans la Tribune de Genève, je crois, il nous avait attribué le qualificatif de gestapistes, ces sénateurs français gestapistes. Quand on connaît le rôle de la Suisse et des banques suisses pendant la Seconde Guerre mondiale...
Les riches sont donc des juifs pour ce monsieur.
Terrible. Terrible.
Oh, pourtant, on a fait une émission la semaine dernière qui montre que la Suisse est quand même une espèce d'État pilote en matière de démocratie participative. Non ?
Oui, ils font des référendums sur plein de sujets. Oui, ça, c'est un bon point pour eux. Mais quand je parle de la
pas
banque...
Pas sur les banques.
Quand je parle,
tiens,
non,
c'est étonnant.
On touche pas à la banque. Parce qu'on a fait croire que défendre l'intérêt de la banque, c'était défendre l'intérêt général de la Suisse. Quoi.
Face à cette passoire géante qui laisse passer les capitaux... Vous proposez de taxer les grandes multinationales à la source. C'est faisable, ça ?
Oui, c'est faisable parce qu'on est capable d'évaluer leur chiffre d'affaires dans le pays en question, en l'occurrence le nôtre, la France, à partir des règlements de TVA, justement. La TVA est déclarée et payée, donc on est capable d'évaluer leur chiffre d'affaires réalisé en France. Donc il s'agit de multinationales. Et donc, évidemment, elles s'empressent de transférer dans leurs filiales, dans les États les moins gourmands fiscalement. Je pense à McDonald's, par exemple, qui transfère ses bénéfices au Luxembourg. Maintenant, à Londres, d'ailleurs, ça a changé. Oui, c'est possible. Techniquement, c'est possible.
Est-ce qu'il y a assez de monde pour travailler là-dessus ?
La DGFiP, les services fiscaux français ont perdu, je crois, 20 000 emplois depuis 15 ans en France. Avoir connaissance de la réalité, oui. Après, se donner les moyens humains et techniques de les combattre, c'est une autre affaire.
On a l'impression que chez ceux qui font l'opinion, il y aurait comme une tendance à avoir un peu plus de tolérance vis-à-vis de la fraude fiscale que, par exemple, la fraude au RSA.
Oui, absolument. D'ailleurs, on nous sert régulièrement, à l'opinion publique, on sert la scandaleuse fraude sociale, entre guillemets, je mets ça entre guillemets. Non seulement on baisse les moyens, mais en plus, les grands groupes négocient leur impôt. Apple vient de faire un chèque de 500 millions d'euros au fisc français pour solder les exercices fiscaux de 2007 à 2013, je crois. 500 millions d'euros pour un groupe comme ça, c'est peanuts, c'est rien du tout. Et dans le même temps... J'apprends en lisant l'excellent magazine Challenge que Apple bénéficie d'un crédit d'impôt.
J'ai toussé là. Vous
avez oui, ça. Je comprends. Mais si je veux connaître l'état de santé du libéralisme, je lis Les Échos, je lis les pages saumon du Figaro et Challenge. Et je vous rassure, le libéralisme se porte bien.
Ah, ouais, ouais,
mais ça fait partie du boulot. Ça fait partie du boulot.
C'est comme aller à Jersey.
Et donc Apple a perçu au titre du crédit d'impôt compétitivité emploi, le fameux CICE, 3 milliards 200 millions d'euros. Donc c'est des gens qui ne payent pas d'impôts et en plus ils ont des crédits d'impôts sur les impôts qu'ils ne payent pas. On est arrivé à ça, on marche sur la tête.
C'est un petit peu comme dans les films américains, là, vous savez, avec Charles Bronson, on découvre qu'il y a un méchant dans l'administration américaine, un ou deux méchants, ils sont deux ou trois copains. Bon, c'est une petite perversion du système et puis une fois qu'on les a éliminés à la fin du film, eh bien, tout va bien. Et la justice est rétablie. Finalement, la fraude fiscale, c'est juste qu'un petit élément pervers d'un système qui, sans ça, fonctionnerait plutôt bien, non ?
C'est ce qu'on voudrait nous faire croire. C'est un peu la soupe qu'on nous sert. Mais non, moi, je crois que fondamentalement, tout à l'heure, je parlais de la financiarisation de l'économie depuis 3 ou 4 décennies. L'évasion fiscale, ça fait partie intégrante de ce système. Gagner de l'argent pour l'argent, l'argent qui tourne sur lui-même et surtout ne pas contribuer au budget des États et donc échapper à l'impôt par tous les moyens possibles, légaux entre guillemets et illégaux, on ne se gêne pas pour le faire. Et toutes les révélations qu'on a pu avoir ces dernières années l'illustrent abondamment et régulièrement. Non, ça fait partie de ce système. La finance a pris le pouvoir dans ce monde.
Et alors, si jamais il n'y avait plus ça, est-ce que le système capitaliste tournerait toujours rond ou bien est-ce qu'il commencerait à y avoir des petits ratés ?
Ben, je pense qu'on pourrait effectivement enrayer la machine en s'attaquant à ça. Ce n'est pas qu'un problème, bien sûr c'est un problème budgétaire, donner des moyens immédiatement pour faire tourner la société, à s'attaquer aux injustices, aux inégalités, etc. Ça c'est un enjeu d'urgence, mais au-delà, je parlais tout à l'heure des GAFA, les multinationales, imaginent demain un monde de 7 milliards d'humains géré en direct par eux, en sautant la case État, parce que les États, pour eux, c'est insupportable. Les États, les seuls garants de l'intérêt général, normalement, sont les seuls qui sont en capacité de lever l'impôt. Google, Facebook ne pourra jamais lever l'impôt. Donc on ne veut plus d'État, on ne veut plus de corps intermédiaires, on ne veut plus de partis politiques, on ne veut plus d'élus. Et le climat du débat du moment, ce n'est pas étranger à cette idée qu'on veut gérer le monde en direct, une centaine de multinationales, 7 milliards d'humains qu'on réduit au rôle de consommateurs. Point. L'enjeu ultime, il est là. Je suis convaincu de ça.
Ça taxe à mort, c'est le gros ras-le-bol. Toute la France sous les blés banderoles. Les gens sont lassés, leur paye s'envole. La pression d'esprit pour des mongols. Bah oui, Macron, ça vire au scandale. N'oublie pas le SMIC, c'est 1100 balles. Les militants trinquent à la vie, à la mort. On est à la limite, y'a plus de mental. On les mains, on les mains. Gilets jaunes, faites voir, on les mains. Emmanuel, bat les mains. Ce n'est plus l'époque d'Aladin. On les mains, on les mains. Gilets jaunes, faites voir, on les mains. Emmanuel, bat les mains. Ce n'est plus l'époque d'Aladin. Le jour et la nuit,
le jour et la nuit.
Sous le froid et la pluie, la voix est unanime. L'ami, les taxes nous assassinent. Ce qui nous rend tristes, nous anime. Il faut agir, y'en a marre de leur bla 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 bla. Taxer comme jamais, taxer comme jamais, taxer comme jamais, taxer comme jamais. Loulou veut du pain, loulou veut du pain. Y'a pas que le diesel, y'a pas que le diesel.
Je comprends que tu sois à bout, tu bosses comme un fou mais ça ne fait pas tout. On veut pas de cadeaux, juste arrêter de nous presser comme une éponge. On est KO. L'Elysée ne se rend pas compte que l'addition est salée. Ça ne peut pas aller, scandalisé. L'impression d'être dévalisé. On a marché sur les Champs-Élysées, criant Manu c'est abusé. On ne lâchera pas, jamais. Donc on peut pas joindre les deux bouts, debout, soudés. Pas la disquette, on la connaît. Manu, tu n'as plus d'abonnés. Sois sûr qu'on va pas dézoner. Mets ton gilet, le rat sonné.
On a plein de choses.
Le jour et la nuit,
le jour et la nuit.
Sous le froid et la pluie, la voix est unanime, l'ami, les taxes nous assassinent. Ce qui nous rend triste, nous anime. Il faut agir, y'en a marre de leur bla 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 bla.
Taxer comme jamais, taxer comme jamais, taxer comme jamais, taxer comme jamais. Loulou veut du pain, loulou veut du pain. Y'a pas
y'a pas que le diesel. Tu n'as pas d'oseille, faut payer quand même. Tu n'as pas d'oseille, faut payer quand même. Tout augmente sauf ta paye, l'hexagone est en deuil. Tout augmente sauf ta paye, dur pour le porte-monnaie.
Yelele, lelele, money money. Lelele, lelele, ya.
Taxé comme jamais, taxé comme jamais, taxé comme jamais, taxé comme jamais. Loulou veut du pain, loulou veut du pain. Y'a pas que le diesel, y'a pas que le diesel.
Taxé comme jamais.
Badi, taxé comme jamais.
On passe au rouge, chaque lundi, de 19h à 20h, sur Radio Campus en 6,6.
Éric Boquet, on est allé sur votre compte Facebook et on y a trouvé une vidéo d'une petite heure où on voit des gilets jaunes, parce qu'on a envie de parler des gilets jaunes. Bien sûr, si vous êtes invité ce soir, c'est parce que dans ce mouvement des gilets jaunes, on parle de taxes. On se souvient tous qu'au départ, c'était la taxe sur l'essence qui avait motivé tous ces prolétaires, pardon, j'emploie votre vocabulaire, à se rendre sur les ronds-points et à manifester leur mécontentement. Depuis, cette colère fiscale a bien entendu beaucoup évoluer, c'est ça aussi parfois les révolutions, il faut suivre, hein, faut être sur le terrain pour suivre le mouvement. Mais Jean-Jacques, tu as travaillé sur ce son pour nous en tirer 5 petites minutes. Ce qui s'est passé, c'est que des gilets jaunes venaient devant le Sénat et puis avaient une attitude, disons, moqueuse, on peut le dire clairement, par rapport à vos menus, par rapport à votre cave à vin qu'on imagine. Et puis ils se baladent autour du Sénat et puis ils tombent sur qui ? Ils tombent sur vous, Éric Boquet.
Voilà, vous êtes toujours avec les gilets jaunes constituants du 91, du 94, 02, hein, voilà, les gars de Picardie. Voilà.
La Provence est à l'honneur aujourd'hui.
Bah la Provence est montée à Paris, quoi. Voilà. Donc c'est toujours le Sénat, vous voyez, c'est quand même magnifique. Magnifique, c'est gardé par la gendarmerie. Voilà. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est qu'ils ont tout le confort, en fait, les sénateurs à l'intérieur. Et ils ont une cantine, une cafétéria où ils ont un chef étoilé qui leur mitonne des petits plats pour 16,75 € par repas. Voilà, ils ont aussi une cave à vin. Alors, on ne sait pas pour le prix du repas si le pichet de rouge est inclus ou pas. Mais en tout cas, ils se la mettent bien, quoi. Ils sont bien, voilà. Ils se la mettent bien avec notre argent. Alors après, est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Bah, donnez vos avis. Est-ce que ils sont vraiment utiles au processus démocratique ? Est-ce qu'on va les garder ou pas ? Je sais pas. En tout cas, ça coûte quand même pas mal cher, puisque ça, c'est du budget qui est à 323 millions d'euros par an. Donc, tous ces braves gens, voilà, nous coûtent 323 millions d'euros par an.
C'est comment ?
Bonjour, citoyen. Est-ce qu'on pourrait avoir un mot, s'il vous plaît ? C'est l'heure de la gamelle. Ils vont manger.
Les amis, toute cette petite bande de coquins sénateurs qui sont payés avec nos deniers, hein, je vous le rappelle.
Ils vont aller manger.
Et même pas, ils s'arrêtent pour parler avec nous. Nous, on leur demande de prendre leurs responsabilités et de lancer la procédure de l'article 68. Incroyable.
Voilà, voilà, voilà. C'est dommage.
Bonjour.
Ce manque de transparence, quand même. C'est
pas de bonjour.
C'est bientôt fini, hein, cette institution, monsieur.
C'est bientôt terminé, vous inquiétez pas. Voilà, là, je suis sénateur du groupe communiste, commission des finances, et je vis autre chose. Et mon ambition, c'est de servir l'intérêt général et que l'intérêt général.
L'intérêt collectif avant l'intérêt individuel ?
Absolument, absolument.
Ah, ça nous cause, nous, en tant que gilets jaunes.
C'est très bien qu'on parle commission des finances.
Oui.
Parce que là, pour le coup, j'aurais une question, cher sénateur. Dans le cadre des finances, comment on peut expliquer qu'entre 80 et 120 milliards d'euros chaque année partent en évasion fiscale ? Alors, attendez, je suis l'homme de la situation. Ah. J'ai été rapporteur de deux commissions d'enquête au Sénat, 2012-2013, sur l'évasion fiscale.
deux commissions d'enquête qui ont duré 6 mois chacune, donc une année de boulot. Et j'ai publié avec mon frère Alain Bocquet, qui était député jusqu'à 2017.
D'accord, je me disais bien que...
Les frères Bocquet, on a publié un bouquin qui s'appelle « Sans domicile fisc » et qui s'appuie sur les travaux des commissions d'enquête parlementaires qu'on a faites au Sénat.
Sans domicile fisc ?
Fisc.
Ah d'accord.
Voilà, le titre était bien
c'est
choisi
pas mal,
pour ça.
Ça c'est
voilà.
Pas mal.
Au Cherche Midi, publié en 2016, septembre 2016, et qui nous a occasionné des déplacements nombreux en France depuis lors. On fait des débats partout, on a fait 42, 43 départements. Organiser des débats avec la population, des gens comme vous et moi, pour partager les constats qu'on avait pu faire, et évidemment avancer des propositions. Donc que les... Alors vous dites 80, 100 milliards, à l'époque on était entre 60 et 80 milliards d'euros.
D'accord.
Le fait que vous soyez dans la rue, d'abord c'est tout à fait légitime, n'est pas étranger à ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'élection de Trump, n'est pas étranger à la décision des Britanniques de voter le Brexit, n'est pas étranger à la situation des Grecs qu'on a humiliés au nom de la dette. Voilà, on les a asservis, comme l'ensemble des États du monde. On a dépossédé les États, alors avec leur complicité plus ou moins, je pense qu'il y a des complicités évidentes.
Il y a des complicités en interne, hein, bien évidemment.
Depuis 40 ans, on a fait en sorte que les États ne soient plus souverains et maîtres de leur situation et de leur budget et de leur choix.
Donc on fait quoi? On change les institutions?
On change les institutions, on s'affranchit de la finance. Moi je suis pour qu'on vote une loi de séparation de l'État et de la finance. Comme la loi de 1905, séparation de l'Église et de l'État, aujourd'hui, il faut séparer l'État de la finance. Parce qu'on en est là.
Il faut contrôler deux forces, le cinquième pouvoir.
Il faut contrôler la finance, les banques, système bancaire, redonner la Banque Centrale Européenne. Pourquoi elle n'aurait pas un rôle de financement qui aiderait les États? La BCE a le droit de prêter aux banques et pas aux États.
Mais oui, parce que les banques commerciales font du profit. Ils font du profit dans cette histoire de dette.
Tout est là. Voilà, à l'intérieur de cette maison, qu'on appelle le Sénat, on essaie de mener la même bataille que vous.
Citoyen sénateur, il y a beaucoup de gens qui nous demandent votre nom.
Je suis Éric Bocquet, sénateur du Nord, élu en 2011, vice-président de la commission des finances, où je m'intéresse beaucoup à ce que... Je comprends mieux le monde depuis que je suis dans la commission des finances du Sénat. D'accord ?
On passe au rouge, une émission que t'écoutes quand tu veux, en podcast sur campuslille.com.
On est avec le citoyen sénateur Éric Bocquet. Ça vous fait plaisir de vous entendre appeler comme ça, monsieur le sénateur?
Moi, je m'honore du titre de citoyen.
Eh oui, bien sûr.
Alors, est-ce qu'il y a eu un avant et un après mouvement des Gilets jaunes sur la question de revendication de justice fiscale?
Ça vous a fait changer, les Gilets jaunes?
Ben, moi, je pense que c'est salutaire pour la société. On avait tendance à constater, malheureusement, beaucoup de résignation. Dans l'opinion, les mouvements syndicaux, enfin l'affaiblissement général des forces progressistes, et je m'en réjouis pas, bien au contraire, mais on constatait ça parce que depuis 40 ans, encore une fois, dans la tête des gens, on a mis l'idée selon laquelle il n'y aurait pas d'alternative possible. Hein, le fameux TINA de Thatcher, hein, « There is no alternative », voilà.
On appelait ça la pensée unique avant.
La pensée unique, et donc il faut reconnaître qu'ils ont marqué des points, mais le match n'est pas terminé, il faut... prendre acte du fait qu'à la mi-temps, ils mènent au score. Mais le match n'est pas terminé, le match de l'histoire n'est pas terminé. Donc ce mouvement des Gilets jaunes, à sa façon, avec sa spécificité, pose les bonnes questions et permettra effectivement de changer de manière irréversible la situation. Alors après, je ne suis pas devin, je ne sais pas ce qui va se passer demain, mais les questions qu'ils posent nécessiteront réponse à un moment ou à un autre.
Éric Bocquet, vous êtes un sénateur, vous êtes membre aussi du Parti communiste français. Vous êtes avec les Gilets jaunes?
Oui. Et d'ailleurs, cette rencontre impromptue à Paris, je m'en suis félicité. Vraiment complètement imprévu. Je sortais du Sénat après le déjeuner et je tombe sur eux. D'où cet échange. Parce que bon, on voit bien que dans le climat général, rejet des politiques, rejet de tous les élus, etc. Bon, moi, je ne me suis pas imposé. On a reçu un courrier, je me souviens, d'un collectif de Gilets jaunes de Dunkerque auquel on a répondu. C'est le seul contact que j'avais eu. Donc là, j'avais l'occasion d'avoir ce contact en direct à Paris, avec l'échange dont vous avez passé un extrait. Je trouvais ça très utile et qui montre bien qu'aucune situation n'est irréversible. Et si on a éloigné sciemment les gens de la politique, c'est pour laisser au business le soin de gérer la société. Il faut que les gens fassent de la politique. Et là, les Gilets jaunes ne veulent pas en faire, je respecte, mais au fond, les questions qu'ils posent sont fondamentalement des questions politiques.
Mais on ne comprend pas bien, finalement, la position du Parti communiste français vis-à-vis des Gilets jaunes. On a l'impression que les déclarations sont alambiquées, qu'il n'y a pas une position aussi claire que celle que vous nous donnez aujourd'hui.
Non, mais c'est sûr que je pense qu'au début, il ne faut pas se mentir, ça a déstabilisé un peu tout le monde. Et puis, ce qui sortait surtout, c'était rejet des politiques. Sincèrement, je n'aurais pas osé me présenter sur un rond-point, sachant qu'il y avait ça dans les têtes. Voilà, le hasard a voulu que cette rencontre ait lieu, mais je ne l'aurais pas imposé, cette rencontre. Je respectais cette position, même si je la déplorais. Parce qu'encore une fois, si on ne fait pas de politique, les autres en font à leur place et dans le sens de leurs intérêts. Voilà, rien n'est irréversible, rien n'est définitif, ça se travaille, il faut dialoguer, il faut parler, il faut échanger, et on converge, sur le fond on converge.
Les Gilets jaunes expriment une injustice fiscale, je le disais tout à l'heure, qui a commencé avec une exaspération vis-à-vis du prix de l'essence qui, depuis, a augmenté. Oui. Ça a évolué. Comment est-ce que vous voyez cette expression de l'injustice fiscale? Qu'est-ce que vous en entendez? Qu'est-ce que vous en retenez?
Moi, je crois que ce mouvement, il a accéléré la prise de conscience de tout le monde. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, ce mouvement n'est pas rejeté majoritairement par l'opinion. Ça fait quand même 5 mois que ça dure, c'est historique, c'est du jamais vu. Et le soutien de l'opinion a été constant, les gens se retrouvaient dans ces actions, parce que tout le monde vit la même chose, salariés, retraités, gens en difficulté, femmes isolées avec des enfants, etc. Ces gens-là parlaient au nom d'une immense majorité du peuple de France. C'est encore vrai aujourd'hui. Malgré tout ce qu'on a pu entendre pour tenter de discréditer ce mouvement, les fachos, les alcoolos, ceux qui picolent, qui fument des clopes, etc., on a entendu ce genre de choses.
Antisémites en plus.
Je pense que ce gouvernement n'a pas pris la mesure, la juste mesure de ce que ce mouvement est en train de poser comme question. Et je pense que ça, il y aura des suites, quoi qu'il arrive après les déclarations là, de M. Macron, il y aura une suite.
Et oui, parce qu'à l'heure où nous enregistrons cette émission, le président de la République est en train, en ce moment même, de faire ses déclarations. On se demande forcément quelle est la traduction politique de ce mouvement des Gilets jaunes. Votre parti est en campagne, comme les autres, puisque nous sommes à l'approche des élections européennes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Est-ce que la liste de Yann Brossat, la tête de liste de votre parti, soutient des idées fiscales innovantes que vous soutenez vous-même?
Oui, absolument. Alors, l'idée de prélèvement à la source des multinationales, c'est une idée forte qui avait été présentée par Fabien Roussel à l'Assemblée, reprise dans le cadre européen. L'idée d'un SMIC européen à 1400 euros, ça fait partie des propositions. Une liste des paradis fiscaux crédibles dans l'Union européenne, ça passe aussi par là. Il faut savoir de qui on cause. Pour combattre un adversaire, il faut l'identifier et le localiser. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis une volonté unanime, et puis réformer de fond en comble ces institutions européennes qui sont tout sauf démocratiques. Donc oui, tout cela est porté. Bon, la situation n'est pas facile dans le camp progressiste à gauche, il ne faut pas se le cacher. Mais il faut dans tous les cas que les gens s'impliquent, émettre un vote pour dire que ce libéralisme fait trop de dégâts et qu'il est temps de construire autre chose aujourd'hui.
Et oui, et vous ne vous êtes pas présenté sur un rond-point, mais vous allez vous présenter le 4 mai à une frontière. Vous pouvez m'en dire plus?
Oui, effectivement, une initiative commune entre le Parti communiste français et le Parti des travailleurs belges, le PTB. Nous allons nous rendre à Neschin le samedi 4 mai prochain, à 10h du matin, de manière symbolique pour dénoncer cette évasion fiscale, puisque pour l'Union européenne, il n'y a pas de paradis fiscal en Europe. Nous, on va mettre les pieds dans un paradis fiscal, on va aller au paradis, c'est merveilleux. À Neschin, la rue de la Reine Astrid, où des millionnaires et milliardaires français sont allés se réfugier par rapport à l'insupportable fiscalité française de l'autre côté de la frontière. Donc, ça sera une action symbolique, commune, pour dénoncer l'évasion fiscale au sein de l'Union européenne en plein cœur.
Neschin, c'est pas la ville de Mulier?
C'est pas là où habite Mullier?
Ça doit être ça.
Mm-hmm. Ouais, ça se trouve, il n'est pas seul. Il doit y avoir Johnny Hallyday, enfin feu Johnny Hallyday qui habitait là-bas aussi.
Oui,
il nous semble que c'est le 4 mai, donc à Neschin. Et le 1er mai, on va vous retrouver dans la rue, Éric Bocquet?
Le 1er mai, je serai dans ma commune pour recevoir les médaillés du travail. C'est la tradition dans les communes de France, vous le savez. Donc à la salle communale, on recevra les travailleurs qui seront mis à l'honneur. Et on tiendra des propos allant dans le sens de la défense du monde du travail globalement.
Éric Bocquet, merci beaucoup pour votre disponibilité et vos réponses. Je rappelle que vous êtes sénateur communiste du Nord et que vous avez publié au Cherche Midi, avec votre frère Alain Bocquet, un livre intitulé « Sans domicile fisc ». Il est temps pour On passe au rouge d'écouter notre dernière chronique, c'est celle de Joseph, Working Class Hero.
Working Class Heroes, héros populaires d'hier et d'aujourd'hui, du réel ou de l'imaginaire. Figure de proue de la commune, elle fut
une combattante inlassable de la justice sociale et de l'émancipation féminine. Elle, c'est Louise Michel, égérie du mouvement ouvrier, caricaturée par les puissants, célébrée par Victor Hugo ou Verlaine, qui voyaient en elle l'ange gardien du pauvre. Fille cachée d'un châtelain et d'une domestique, née en 1830, Louise Michel abandonne son éducation royaliste et conservatrice pour les idées laïques, républicaines et révolutionnaires. Institutrice, elle enseigne en école libre plutôt que de prêter serment à Napoléon III. C'est naturellement qu'elle rejoint en 1871 à Paris ce que Marx décrira comme la première révolution prolétaire de l'histoire.
Ouvriers, paysans, unissons nos colères, malheur à qui nous vole en nous avilissant. Nous voulons le respect et de justes salaires et le seuil des écoles ouvert à nos enfants. Nos parents ne savaient ni lire ni écrire, on les traitait de brutes, ils acceptaient l'affront. L'égalité, la vraie, est à qui la désire, la commune est en lutte et demain nous vaincrons.
Après sa défaite dans la guerre contre la Prusse, le gouvernement à majorité monarchiste a pris des mesures qui étranglent le petit peuple. Les Parisiens révoltés réquisitionnent les canons et gagnent à leur cause une partie des soldats censés les réprimer. Le gouvernement d'Adolphe Thiers s'enfuit à Versailles avec dans son sillage une partie de la bourgeoisie apeurée. La Commune de Paris est proclamée. Le drapeau rouge flotte sur la capitale pendant 72 jours du printemps 1871. Un véritable laboratoire social est ouvert par le peuple parisien qui organise son autodéfense et désigne son propre gouvernement d'ouvriers, de petits artisans et intellectuels. Autogestion des ateliers, justice et écoles gratuites, suppression des loyers, doublement des salaires des instituteurs sont à l'ordre du jour. Les églises sont transformées en lieux de débat où les femmes comme les hommes ont la parole. Le peuple est monté à l'assaut du ciel. L'armée versaillaise riposte et met à terre les espoirs naissants de la Commune, jusqu'au dénouement tragique de la semaine sanglante où des milliers de fédérés sont massacrés. Louise Michel, au premier rang des combats et des barricades, est déportée en Nouvelle-Calédonie. C'est lors de son procès qu'elle devient vraiment célèbre. Elle réclame la mort et défie ses juges, tous des hommes, impressionnés par le regard de feu de cette rebelle indomptable. Au bagne, elle soutient la révolte des Kanaks contre la colonisation. Elle apprend à lire aux enfants. Rentrée en France, elle porte haut son drapeau noir dans les défilés de chômeurs et les meetings. Lénine et les révolutionnaires russes viennent écouter ses conférences sur la Commune. À la mort de Louise Michel en 1905, un kilomètre de foule accompagne son cercueil. Ils ont brisé la Commune, mais l'espérance est en germe pour le siècle qui commence.
Que d'autres que moi chantent pour des prunes, moi je resterai fidèle à l'esprit qu'on a vu paraître avec la Commune et qui souffle encore au cœur de Paris. À qu'ils viennent au moins le temps des cerises avant de claquer sur mon tambourin. Avant que j'ai dû boucler mes valises et qu'on m'ait poussé dans le dernier train.
La peur de la Commune restera toujours présente parmi les possédants. Elle a montré au monde que les révolutions ne se font qu'avec le peuple concret et non le peuple théorique des institutions. Marx réfléchit aux leçons à en tirer.
La Commune a démontré que la classe ouvrière ne peut pas se contenter de prendre telle quelle la machine de l'État et de la faire fonctionner pour son propre compte.
Quant à Louise Michel, l'histoire de France l'a reconnue. Elle est la seule femme à avoir une station de métro qui porte son nom, ainsi que plusieurs centaines de rues ou d'écoles, voire une promotion de l'ENA. Pourtant, si Louise Michel vivait aujourd'hui, nul doute qu'elle nous inciterait à brûler les banques.
C'était On passe au rouge sur Radio Campus 106,6 et campuslille.com. Je rappelle que nos émissions sont toutes réaudibles sur le site de la radio. Vous allez chercher les podcasts lundi 19h. Nos autres rendez-vous, c'est bien sûr le 1er mai. Le 1er mai, un petit peu partout dans ce pays, puisque c'est la fête des travailleurs néchins pour jeudi le 4 mai. Et pour nous, bien sûr, c'est lundi 19h. À noter au passage que finalement, l'acte 24 a eu bien lieu à Lille. On peut le noter, puisque la manifestation lilloise, finalement, a été annulée. Alors, on vous souhaite a posteriori une bonne manifestation. Au revoir tout le monde.
Eric à la prochaine,
Bocquet.
Seb.
Merci, Eric Bocquet. À bientôt. Au revoir. Jean-Jacques, à bientôt. Salut, salut.
Oui, à bientôt.
Il y avait Joseph et Laurent.
Salut.